Mais où aller? Où frapper? Dans la conversation, Guillaume, cherchant à qui Salva avait pu demander asile, nomma Jean-Zan, et il eut un instant l'idée d'envoyer au renseignement chez celui-ci. Puis, il réfléchit que Jean-Zan, s'il avait appris l'attentat, n'était pas homme à attendre chez lui la police. « J'irai bien t'acheter les journaux du soir, » répétait Pierre. « Mais il n'y a rien dedans, à coup sûr. Dans Neuilly, je connais presque tout le monde. Seulement, je ne vois personne. À moins, pourtant, que Bâche... » Guillaume l'interrompit. « Tu connais Bâche, le conseiller municipal ?»« Oui, nous nous sommes occupés ensemble de bonnes œuvres dans le quartier. » « Oh, Bâche est un de mes vieux amis, et je ne sais pas d'homme plus sûr. Va chez lui, ramène-le-moi, je t'en prie. » Un quart d'heure plus tard, Pierre ramenait Bâche, qui habitait une rue voisine. Et il ne le ramenait pas seul, ayant eu la surprise de trouver chez lui Jean-Zan. Comme Guillaume s'en était douté, celui-ci, dînant chez la princesse de Ars et apprenant l'attentat, s'était bien gardé de rentrer couché dans son petit logement de la rue des Martyrs, où la police pouvait avoir l'idée d'établir une souricière. On connaissait ses attaches, il se savait guetté, toujours sous le coup, comme étranger anarchiste, d'une arrestation ou d'une expulsion. Aussi avait-il cru prudent d'aller pour quelques jours demander l'hospitalité à Bâche, homme très droit, très serviable, aux mains duquel il se confiait sans crainte. Jamais il ne serait resté chez Rosemonde, cette détraquée adorable qui, depuis un mois, l'affichait par un besoin éperdu de sensations nouvelles, et dont il avait senti toute l'inutile et dangereuse extravagance. Guillaume, ravi de voir entrer Bâche et Jean-Zan, voulut se remettre sur son séant. Mais Pierre exigea qu'il demeurât tranquille, la tête sur l'oreiller, et surtout qu'il parlât le moins possible. Tandis que Jean-Zan restait debout et silencieux, Bâche prit une chaise, s'assit à côté du lit, débordant d'amicales paroles. C'était un gros homme de 60 ans, à la figure large et pleine, à la grande barbe blanche, aux longs cheveux blancs. Ses petits yeux tendres se noyaient de rêves. Sa grosse bouche avait un bon sourire d'universel espoir. Son père, un saint-simonien fervent, l'avait élevé dans le culte de la croyance nouvelle. Et lui-même, plus tard, tout en gardant le respect de cette croyance, était passé aux idées de Fourier par un besoin personnel d'ordre et de religiosité, de sorte qu'on trouvait en lui comme une succession et un raccourci des deux doctrines. Vers 30 ans, il s'était aussi préoccupé du spiritisme. Riche d'une petite fortune solide, il n'avait eu d'autre aventure en sa vie que d'avoir fait partie de la Commune de 1871, sans trop savoir pourquoi ni comment. Condamné à mort par contumace, bien qu'il eût siégé parmi les modérés, il avait vécu en Belgique jusqu'à l'amnistie. Et c'était en souvenir de ces choses que Neuilly l'avait envoyé au conseil municipal. Moins cependant pour glorifier la victime de la réaction bourgeoise que pour récompenser le très brave homme aimé de tout le quartier. Dans son besoin de nouvelles, Guillaume dut se confier aux deux visiteurs. Leur dire l'histoire de la bombe, la fuite de Salva, la façon dont il venait d'être blessé en voulant éteindre la mèche. Et Jean-Zan, qui l'écoutait, de son air froid, avec sa maigre figure de Christ très blond, à la barbe et aux cheveux bouclés, dit enfin d'une voix douce, les mots ralentis par son pénible accent étranger. « Ah, c'est Salva, je croyais que ça pouvait être le petit Mathis. » Salva, ça m'étonne, il n'était pas décidé. Et lorsque Guillaume, anxieux, lui demanda s'il pensait que Salva parlerait, il se récria d'abord « Oh non, oh non !» Puis il se reprit avec un peu de dédain dans ses yeux clairs, chimériques et durs. « Pourtant, je ne sais pas, Salva est un sentimental. » Bâche, que l'attentat bouleversait, s'agita, chercha tout de suite comment, en cas d'une dénonciation, on tirerait d'affaire Guillaume, qu'il aimait beaucoup. Et celui-ci, devant la froideur méprisante de Jean-Zan, dut souffrir qu'on pût le croire ainsi tremblant, ravagé par l'unique désir de sauver sa peau dans l'aventure. Mais que leur dire? Comment leur faire entendre le haut souci qu'il en fiévrait, sans leur confier le secret qu'il avait caché même à son frère? Sophie, à ce moment, vint dire à son maître que M. Théophile Morin était là, avec un autre monsieur. Très étonné de cette visite tardive, Pierre passa dans la pièce voisine pour les recevoir. Il avait connu Morin à son retour d'Italie, et il avait aidé à faire traduire et adopter, dans les écoles italiennes, un excellent résumé des sciences actuelles, tels que les programmes universitaires les exigent. Franc-comtois, compatriote de Proudhon, dont il avait fréquenté à Besançon la pauvre famille, fils lui-même d'un ouvrier horloger, Morin avait grandi dans les idées proudhoniennes, ami tendre des misérables, nourrissant une colère d'instinct contre la richesse et la propriété. Plus tard, venu à Paris comme petit professeur, passionné par l'étude, il s'était donné de toute son intelligence à Auguste Comte. Et c'était ainsi qu'on aurait retrouvé chez lui, sous le positiviste fervent, l'ancien proudhonien, sa révolte personnelle de pauvre, en haine de la misère. Il s'en tenait d'ailleurs au positivisme scientifique, ayant renié le Comte si étrangement religieux ces dernières années, dans sa haine de tout mysticisme. Son existence brave, unie et morne, n'avait eu qu'un roman, le coup de brusque fièvre qu'il avait emporté et fait combattre en Sicile aux côtés de Garibaldi, lors de l'épopée légendaire des Mille. Et il était redevenu à Paris petit professeur gagnant obscurément sa vie triste. Lorsque Pierre rentra dans la chambre, il dit à son frère, la voix émue, « Morin m'amène Barthès, qui s'imagine être en péril et qui me demande l'hospitalité. » Guillaume s'oublia, se passionna. « Nicolas Barthès, un héros, une âme antique, je le connais, je l'admire et je l'aime. Il faut lui ouvrir ta maison toute grande. » Bâche et Jean-Zan s'étaient regardés en souriant. Puis, de son air froidement ironique, le dernier dit avec lenteur « Pourquoi M. Barthès se cache-t-il? Beaucoup de gens le croient mort, et c'est un revenant qui ne fait plus peur à personne. » Âgé de 74 ans, Barthès avait passé près de 50 années en prison. Il était l'éternel prisonnier, le héros de la liberté, que tous les gouvernements avaient promené de citadelle en forteresse. Depuis son adolescence, il marchait dans son rêve fraternel, il combattait pour une république idéale de vérité et de justice. Et il aboutissait toujours au cachot. Il allait toujours achever sa rêverie humanitaire sous de triples verrous. Carbonaro, républicain de la veille, sectaire évangélique, il avait conspiré à toutes les heures, dans tous les lieux, en lutte sans cesse contre le pouvoir, quel qu'il fût. Et lorsque la République était venue, cette République qui lui avait coûté tant d'années de geôle, elle l'avait emprisonné à son tour, ajoutant des années d'ombre aux années déjà sans soleil. Et il restait le martyr de la liberté. Et il la voulait quand même, elle qui n'était jamais. « Mais vous vous trompez !» reprit Guillaume, froissé du ton railleur de Jean-Zan. « On songe une fois de plus à se débarrasser de Barthès, dont la probité intransigeante gêne nos hommes politiques. Et il fait très bien de prendre ses précautions. » Nicolas Barthès entrait. Un grand vieillard, sec et mince, le nez en bec d'aigle, les yeux brûlants encore sous les profondes arcades sourcilières, embroussaillés de longs poils blancs. La bouche édentée, restée fine, se perdait dans la barbe de neige, tandis que la couronne des cheveux, d'une blancheur d'auréole, tombait en boucle sur les épaules. Et derrière lui, modestement, venait Théophile Morin, avec ses favoris gris, ses cheveux gris taillés en brosse, ses lunettes, son air jaune et las de vieux professeur, usé dans sa chaire. Ni l'un ni l'autre ne parurent s'étonner, n'attendirent une explication, en trouvant au lit cet homme, le poignet bandé, et il n'y eut aucune présentation, ceux qui se connaissaient se sourirent simplement. Barthès se pencha, baisa Guillaume sur les deux joues. « Ah !» dit ce dernier presque gaiement, « cela me donne du courage de vous voir !» Mais les deux nouveaux venus apportaient quelques renseignements. Une agitation extrême régnait sur les boulevards. La nouvelle de l'attentat s'était répandue de café en café, et l'on s'arrachait l'édition tardive d'un journal où l'affaire se trouvait racontée, formale, avec d'extraordinaires détails. En somme, on ne savait encore rien de précis. Pierre, en voyant Guillaume pâlir, le força de se recoucher. Et comme il parlait d'emmener ces messieurs dans la pièce voisine, le blessé dit doucement « Non, non, je te promets de ne plus remuer, de ne plus ouvrir la bouche. Restez là, causez à demi-voix. Je t'assure que cela me fera du bien de ne pas être seul et de vous entendre. » Alors, sous la lueur dormante de la lampe, une sourde conversation s'engagea. Le vieux Barthès, à propos de cette bombe qu'il jugeait abominable et imbécile, parlait avec la stupeur d'un héros des luttes légendaires pour la liberté, attardé dans des temps nouveaux auxquels il ne comprenait absolument rien. Est-ce que la liberté enfin conquise ne suffirait pas à tout? Est-ce qu'il existait un autre problème que celui de fonder la vraie République? Puis, à propos de Meige et de son discours prononcé l'après-midi à la Chambre, il fit amèrement le procès du collectivisme, qu'il déclarait être une des formes démocratiques du despotisme. Théophile Morin, lui, s'il se prononçait contre l'enrégimentement collectiviste des forces sociales, professait une haine plus vigoureuse encore contre l'odieuse violence des anarchistes, car il n'attendait le progrès que par l'évolution. Il se montrait assez indifférent sur les moyens politiques qui devaient réaliser la société scientifique de demain. Les anarchistes, certes, Bache paraissait ne pas les aimer davantage. Touché pourtant du songe idyllique, de l'espoir humanitaire en germe au fond de leur rage destructive, s'emportant lui aussi contre Meige, qu'il accusait, depuis son entrée à la Chambre, de n'être plus qu'un rhéteur, un théoricien rêvant de dictature. Et Jean-Zan, toujours debout, avec le pli ironique de sa lèvre dans son visage glacé, les écoutait tous les trois, ne lâchait des mots brefs, coupant comme des lames d'acier, que pour dire sa foi d'anarchie, l'inutilité des nuances, la nécessité de l'absolu, tout détruire pour tout reconstruire. Pierre, demeuré près du lit, écoutait également avec une attention passionnée. Dans l'écroulement qui s'était fait en lui de toutes les croyances, dans le néant auquel il avait abouti, ces hommes venus là des quatre points des idées du siècle remuaient le terrible problème dont ils souffraient. Celui de la croyance nouvelle attendue par la démocratie du siècle prochain. Et, depuis les ancêtres immédiats, depuis Voltaire, depuis Diderot, depuis Rousseau, quel continuel flot d'idées, se succédant, se heurtant sans fin, les unes enfantant les autres, toutes se brisant dans une tempête où il devenait si difficile de voir clair. D'où soufflait le vent? Où allait la nef de salut? Pour quel port fallait-il donc s'embarquer? Déjà, il s'était dit que le bilan du siècle était à faire, qu'il devrait, après avoir accepté l'héritage de Rousseau et des autres précurseurs, étudier les idées de Saint-Simon, de Fourier, de Cabet lui-même, d'Auguste Comte et de Proudhon, de Karl Marx aussi, afin de se rendre au moins compte du chemin parcouru, du carrefour auquel on était arrivé. Et n'était-ce pas une occasion, puisqu'un hasard réunissait ces hommes chez lui, apportant les vivantes et adverses doctrines qu'il se promettait d'examiner? Mais, s'étant tourné, Pierre aperçut Guillaume très pâle, les paupières closes. Lui-même, dans sa foi en la science, venait-il de sentir passer le doute des théories contradictoires, la désespérance de voir la lutte pour la vérité accroître l'erreur? « Tu souffres ?» demanda le prêtre, inquiet. « Oui, un peu. Je vais tâcher de dormir. » Tous s'en allèrent avec de muettes poignées de main. Seul Nicolas Barthès resta, couché dans une chambre du premier étage que venait de préparer Sophie. Pierre, pour ne pas quitter son frère, sommeilla sur un canapé. Et la petite maison retomba à sa grande paix, à ce silence de la solitude et de l'hiver, où passait le mélancolique frisson des souvenirs d'enfance. Le matin, dès 7 heures, Pierre dut aller chercher les journaux. Guillaume avait mal dormi, une fièvre intense s'était déclarée. Mais il fallut quand même que son frère lui lût les articles interminables publiés sur l'attentat. C'était un pêle-mêle extraordinaire de vérités, d'inventions, de renseignements précis noyés dans les extravagances les plus inattendues. La Voix du Peuple, surtout le journal de Sagné, se distinguait par ses titres et sous-titres en gros caractères, par la page entière qu'il donnait d'informations entassées au hasard. Du coup, il en avait gardé pour plus tard la fameuse liste des 32 députés et sénateurs compromis dans l'affaire des chemins de fer africains. Et il ne tarissait pas en détail sur l'aspect du porche de l'hôtel du Villard après l'explosion, le pavé défoncé, le plafond de l'étage supérieur crevé, la porte cochère arrachée de ses ferrures. Puis venait l'histoire des 2 enfants du baron, préservés par miracle, le landau intact, tandis que le père et la mère, affirmait-on, s'étaient attardés à la conférence si remarquable de Monseigneur Martin. Toute une colonne était consacrée à la seule victime, la pauvre enfant blonde et jolie, le petit trottin de modiste, le ventre ouvert, dont l'identité n'était pas nettement établie, bien qu'une nuée de reporters se fût ruée avenue de l'Opéra, chez la patronne. Puis, dans le haut du faubourg Saint-Denis, où l'on croyait que la grand-mère de la morte habitait. Et, dans un article grave du Globe, évidemment inspiré par Fonsègue, un appel était fait au patriotisme de la Chambre pour qu'elle évitât toute crise ministérielle au milieu des événements douloureux que le pays traversait. Pendant quelques semaines encore, le ministère allait durer, vivre à peu près tranquille. Mais Guillaume n'avait été frappé que par un détail. L'auteur de l'attentat restait inconnu. Salva, certainement, n'était ni arrêté ni même soupçonné. On semblait au contraire partir sur une piste fausse. Un monsieur bien mis, ganté, qu'un voisin jurait avoir vu entrer dans l'hôtel au moment de l'explosion. Et Guillaume semblait se calmer un peu lorsque son frère lui lut un autre journal où l'on donnait des renseignements sur l'engin qui avait dû être employé, une boîte de conserve relativement très petite dont on avait retrouvé les débris. De nouveau, il retomba à son anxiété lorsqu'il sut qu'on s'étonnait qu'un si pauvre engin eût pu faire de si violents ravages, et qu'on soupçonnait là quelque nouvel explosif d'une puissance incalculable. À 8 heures, Berthe Roy reparut, alerté malgré ses 70 ans, tel qu'un jeune carabin qui court chez un ami, lui rendre le service d'une petite opération. Il apportait une trousse, des bandes, de la charpie. Mais il se fâcha lorsqu'il trouva le blessé rouge, nerveux, brûlé de fièvre. « Ah, mon cher enfant, je vois que vous n'avez pas été raisonnable. Vous avez dû trop causer, vous agiter, vous passionner. » Et dès qu'il eut examiné, sondé la plaie avec soin, il ajouta, tandis qu'il le pensait, « Vous savez que l'on est endommagé et que je ne réponds de rien si vous n'êtes pas plus sage. Toute complication rendrait l'amputation nécessaire. » Pierre frémit, tandis que Guillaume avait un haussement d'épaules, comme pour dire qu'il voulait bien être amputé si tout croulait autour de lui. Berthereau, qui s'était assis, s'oubliant là un instant, les regardait tous les deux de ses regards aigus. Maintenant, il savait l'attentat. Il devait avoir fait ses réflexions. « Mon cher enfant, reprit-il avec sa brusquerie, je crois bien que ce n'est pas vous qui avez commis cette abominable bêtise, rue Godot de Mauroy, mais je m'imagine que vous deviez être dans les environs. Non, non, ne me répondez pas, ne vous défendez pas. Je ne sais et ne veux rien savoir. Pas même la formule de cette diablesse de poudre dont le poignet de votre chemise portait la trace et qui a fait du si terrible ouvrage. » Et comme les deux frères restaient surpris, glacés d'inquiétude malgré ses assurances, il ajouta avec un geste large, « Ah, mes amis, si vous saviez combien je trouve un tel acte plus inutile encore que criminel, je n'ai que mépris pour les agitations vaines de la politique, aussi bien la révolutionnaire que la conservatrice. Est-ce que la science ne suffit pas ? À quoi bon vouloir hâter les temps lorsqu'un pas de la science avance plus l'humanité vers la cité de justice et de vérité que 100 ans de politique et de révolte sociale ? Allez, elle seule balaye les dogmes, emporte les dieux, fait de la lumière et du bonheur. C'est moi, le membre de l'Institut, renté, décoré, qui suis le seul révolutionnaire. » Il se mit à rire, et Guillaume sentit l'ironie bon enfant de ce rire. S'il admirait en lui le grand savant, il avait jusque-là souffert de le voir si bourgeoisement installé dans la vie, laissant venir à lui les situations et les honneurs, républicain sous la République, mais tout prêt à servir la science sous n'importe quel maître. Et voilà que, de cet opportuniste, de ce savant hiérarchisé, de ce travailleur qui acceptait de toutes les mains la richesse et la gloire, se dégageait un tranquille et terrible évolutionniste, comptant bien que sa besogne allait quand même ravager et renouveler le monde. Il se leva, il partit. « Allons, je reviendrai. Soyez raisonnables. Aimez-vous bien tous les deux. » Quand ils se retrouvèrent seuls, Pierre, assis près du lit de Guillaume, leurs mains de nouveau se cherchèrent, se nouèrent, dans une étreinte où brûlait toute leur angoisse. Que d'inconnu, que de détresse menaçante autour d'eux, en eux. La grise journée d'hiver entrait. On apercevait les arbres noirs du jardin, tandis que la petite maison frissonnait de silence. Un sourd bruit de pas se faisait seul entendre au-dessus de leur tête, le pas de Nicolas Barthès, l'héroïque amant de la liberté, qui, ayant couché là, avait repris, dès la pointe du jour, sa promenade de lion en cage, son habituel va-et-vient d'éternel prisonnier. Et à ce moment, les regards des deux frères tombèrent sur un journal resté grand ouvert sur le lit et maculé d'un croquis aux traits qui avait la prétention de représenter le petit Trottin mort, le flanc troué à côté du carton et du chapeau de femme. C'était si effroyable, si atroce de laideur, que deux grosses larmes, de nouveau, roulèrent des yeux de Pierre, pendant que les yeux troubles et désespérés de Guillaume, perdus au loin, cherchaient l'avenir.